Et quand ils ont des mots, les vieux, des mots...
Et bonsoir, c'est...
N'hésite pas à passer, merci pour
la... C'est sympa, merci. Bon courage pour toutes les rues locales et tout.
Ouais, merci, merci. On va y arriver.
Yes, grave.
En veux-tu, en voilà. Et sur le site de Radio Libertaire. Mais sinon, c'est aujourd'hui, parce que là, on parle maintenant et qu'il y a des gens qui nous écoutent, de 17h à 18h. Voilà.
Donc là, on est en live.
Oui, c'est ça. On est en faux live.
Là, c'est grave, mon Dieu. Écoutez Radio Libertaire et enregistrez le réseau sur cassette, pardon. Mais oui, la radio doit vivre.
Ok, merci, merci beaucoup pour ton témoignage.
Je peux avoir le mot de la fin ?
Ouais, alors dis-moi. Ok, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ça ?
Non. Vive la radio.
Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu à ce concert et d'être les derniers à supporter ce lieu.
Comme
du coup,
le dernier des dinosaures.
Et bonsoir, c'est...
Avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui... Si on devait faire taire tous les petits diables qui se marrent dans les castes, nos cerveaux et s'agitent à l'envie pour nous défaire la vie. Triste, la vie serait moche alors. Alors, je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, libre et combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe quand on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
C'est toujours Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et débats du jour qui commence avec au programme aujourd'hui deux premiers romans. Il s'agit d'un roman intitulé Du même bois qui a été écrit par Marion Fayolle et qui paraît chez Gallimard. Et puis après cet univers rural, nous aborderons l'univers urbain avec Élodie Fiabane pour un livre intitulé Dans la ville et qui lui paraît chez Flammarion. Alors c'est deux romans que j'ai beaucoup aimés avec deux univers très personnel et très différent, et je vous propose tout de suite de retrouver Marion Fayolle pour Du même bois, paru chez Gallimard.
«
C'est toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le grand plaisir de retrouver Marion Fayol pour parler d'un roman qui est paru chez Gallimard, un court roman qui s'intitule « Du même bois ». Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre, de par ce qu'il dit, de par son écriture, et je suis ravie qu'on puisse en parler aujourd'hui de ce premier roman. Alors déjà, ce choix de faire ce roman, d'aborder du même bois, comment c'est né? Pourquoi ce besoin d'accéder maintenant à l'écrit?
Alors, en fait, c'est venu assez, assez simplement, dans la mesure où moi, j'ai grandi donc en Ardèche et j'ai passé beaucoup de temps dans une ferme qui était la ferme de mes grands-parents, et il se trouve que c'est une ferme qui était dans la famille de génération en génération et qui était exploitée par mon oncle et ma tante, qui sont à la retraite depuis pas longtemps. Et en fait, c'est au moment où mon oncle a pris sa retraite et où, en fait, notre génération à nous, donc mes cousins, mon frère, moi, n'avons pas continué cette histoire-là, mmh. n'avons pas suivi l'espèce de chemin tout tracé qui aurait été de s'occuper des vaches et de continuer l'histoire telle qu'elle a toujours été dans la famille. Donc c'était quelque chose qui me travaillait beaucoup, et je crois que j'ai commencé à écrire d'abord simplement pour passer du temps dans cet endroit, pour convoquer des souvenirs, et puis aussi pour en parler, parce que tout le monde était un peu triste, mais personne n'en parlait, on n'en parlait pas entre nous, donc c'était aussi une façon pour moi de dire des choses que j'avais besoin de dire. Et c'était ma façon à moi, je pense, de reprendre la ferme ou d'en hériter, en tout cas d'en faire une fiction, parce que c'est pas purement autobiographique, mais en tout cas de réanimer cet endroit, de mettre des vaches à nouveau à l'intérieur, de convoquer des souvenirs, c'était ma façon de reprendre la ferme.
Oui, alors effectivement, et ce qu'on ressent dans Du même bois, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs thèmes, mais j'allais dire que peut-être le plus important, c'est justement tout ce qui est de l'ordre de la transmission, parce que ça, j'allais dire, c'est le fil rouge du roman. Qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants en matière de patrimoine, comme on l'évoquait il y a quelques instants? Qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants en matière de gènes, de génétique? Qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants de sa propre névrose, de sa folie? Qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants du déterminisme social? Qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants du poids des traditions? Enfin, il y a énormément de choses autour de la transmission dans votre roman.
Oui, pour moi, il y avait deux choses. Il y avait déjà le bâtiment en lui-même. Oui. C'est un bâtiment qui est construit de telle façon qu'il y a les actifs d'un côté, les vaches au milieu et les personnes âgées de l'autre côté, où donc, en fait, en vieillissant, on prend littéralement la place de ses parents. On habite dans la maison des parents. Donc, ça m'intéressait déjà de que l'architecture en elle-même, elle parle de cette idée de prendre la place.
Je me permets de vous interrompre parce que ça va encore plus loin. Alors effectivement, vous réussissez à faire en sorte que le temps s'incarne dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très fort. Il y a effectivement donc cette ferme, mais au-delà de la ferme, il y a l'importance des limites de la propriété et puis de la vallée où on s'en va pour étudier. Et petit à petit, on s'aperçoit que cet espace qui est très restreint, ce temps qui est concentré au départ, et ben va se diffuser dans une modernité entre guillemets qui fait qu'on va s'en aller. Et j'ai trouvé que cette progression dans le roman était très importante et très forte.
Oui, en fait, ça se ressent même au niveau des animaux, parce que il y a les petits veaux qui naissent dans l'étable à l'intérieur et qui eux aussi à un moment donné vont se rendre compte qu'il y a un dehors. Et j'avais envie en effet que petit à petit le paysage se déploie autour de la ferme jusqu'à derrière la ligne d'horizon. Qu'est-ce qui se passe, et est-ce qu'aussi une fois qu'on est parti on peut revenir? Et puis pour la question de la transmission, il y avait aussi ce jeu de ce double sens sur l'idée des bêtes, parce que il y avait Il y avait l'idée que ce sont des gens qui vivent avec des bêtes, au sens propre, avec des vaches, qui s'en occupent, qui en prennent soin. Il y avait aussi la question de la bête intérieure et des espèces de marginalité ou de singularité dans les personnages qui viendraient aussi se transmettre, et de cet animal qui vit sous la même toiture, mais aussi dans le même crâne. Enfin, voilà, il y avait un peu cette double lecture qui m'intéressait.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futées. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie, j'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai des pipes d'écume ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant, d'avec ma femme j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle-là, qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Il y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Oui, tout à fait. Quelle est la bête en nous, et que nous transmettent également les bêtes. Alors, effectivement, la bête en nous, elle est présente au travers de plusieurs personnages. Et ce que nous transmettent les bêtes, bah, c'est aussi présent. Et vous faites en permanence un jeu de miroir entre les animaux et les humains. Par exemple, autour de la naissance. C'est vrai qu'une vache qui d'habitude est docile va d'un seul coup ne plus vouloir s'occuper de son veau, juste au moment où un des personnages doit elle-même avoir un enfant, et elle va se poser la question de savoir si elle va être une bonne mère. Et les références, c'est toujours effectivement par rapport à des références animalières. Les petits veaux, c'est la même chose. À chaque fois, on se pose la question de qu'est-ce qu'on transmet dans ce sens-là aussi.
Oui. Et c'était aussi moi, à la base, je suis illustratrice, donc j'ai tout un travail aussi sur les analogies. Et mon dessin, c'est souvent des associations de formes ou presque des collages. Et là, c'était cette idée aussi, c'était de faire s'hybrider l'animal et l'humain, et aussi de regarder la famille en transparence sur le paysage, en transparence sur les bêtes, et aussi les générations ou les âges en transparence les uns sur les autres. Il y avait cette idée-là d'un livre qui s'écrirait pas comme un récit avec un scénario ou quelque chose qui tiendrait dans l'histoire, mais qui serait plus presque un livre qui aurait été écrit sur du calque, et où chaque mot ou chaque image en appelle une autre qu'on voit par derrière, et c'est comme ça que l'écriture petit à petit construit un chemin plus par des associations de mots ou des jeux visuels que par un scénario.
Mmh. Oui, tout à fait, c'est pas un récit linéaire et comme vous l'évoquez, les générations aussi se superposent. C'est vrai que dans cette dynamique que vous évoquiez de la forme de la ferme où quand on est plus âgé, on passe dans le bâtiment d'en face petit à petit, puisqu'il y a deux bâtiments avec les bêtes entre les deux bâtiments, on est d'un côté, on meurt de l'autre. Et c'est cette impression-là qu'effectivement les générations se succèdent, se superposent, se mélangent aussi. Il y a des moments où on ne sait plus qui est qui, la grand-mère, la mère, enfin, tout est mélangé et c'est ce qui fait la finesse du livre.
Oui, il y avait, en fait, dans mes dessins, j'ai fait aussi un livre qui s'appelle Les Petits. Oui, mais pour moi, il y a certaines images de l'enfant qui se reflète dans sa mère, où vraiment c'est un enfant, et le visage de la mère est un miroir. Et je pense qu'il y a des choses comme ça qui étaient là dans les arrière-cours du livre, les arrière-pensées du livre, et que j'ai déployées par l'écriture. Mais en effet, il y a cette idée. Il y a cette idée très souvent que les membres de la famille se regardent les uns dans les autres jusqu'à devenir confus, puisqu'il y a aussi un papy qui est mort avant de connaître son petit-fils. Et donc, il y a la maman qui va faire semblant d'être le papy pour le faire vivre auprès de son fils qui le connaît pas. Il y a la mère et la grand-mère qui se regardent dans un jeu de, comme si la grand-mère était la mère plus tard et donc comme si elle regardait ses propres défauts et que c'était pas un autre personnage en face d'elle, mais une sorte de elle du futur. Voilà, sans cesse comme ça, il y a des jeux de miroirs entre les humains jusqu'à ce que finalement les contours et les limites de chaque personnage soient presque effacés, estompés, et que on est presque juste un dégradé des âges.
Oui, dégradé des âges, mais en même temps, il y a toujours cette question de qu'est-ce qui est semblable et qu'est-ce qui est différent. Et ça aussi, oui, c'est intéressant parce qu'ils ne sont pas tous confondus les uns aux autres. Et on va prendre l'exemple, si vous le voulez bien, Marion Fayol, à propos de ce roman que nous évoquons, Du même bois, paru chez Gallimard. On va prendre l'exemple de l'orphelin parce que je crois qu'il est particulièrement intéressant, comme son nom l'indique. D'ailleurs, il n'est pas nommé autrement, c'est l'orphelin. De toute façon, ils n'ont pas de nom, ils sont tous désignés par une caractéristique, la position dans la famille. Et cet orphelin, qui vient d'un autre univers, va essayer lui aussi de se fondre dans l'image du grand-père, dans une espèce de symbiose imitation. C'est pas volontaire, c'est pas de la copie, mais il aimerait tellement pouvoir s'identifier. Et j'ai trouvé cette chose absolument touchante, parce qu'en même temps, il n'est pas de la famille, mais il en fait partie quand même. Enfin, il y a un jeu sur les identités qui est passionnant.
Oui, ça m'intéressait d'avoir ceux qui rentrent dans le cadre et qui prennent la place, et puis d'avoir ceux qui sortent du cadre. Alors avec le personnage de l'orphelin qui aimerait avoir hérité de la génétique, qui aimerait avoir hérité de la ferme, qui aimerait être le fils de quelqu'un ou le voilà, et qui donc du coup fait tout pour ressembler à des gens à qui à la base il ne ressemble pas. Et après il y a les personnages qui eux souffrent de la famille et qui ont au contraire envie de s'en échapper. Donc c'était un peu c'était ces deux profils qui m'intéressaient. C'était ceux qui n'en font pas partie mais qui aimeraient en faire partie, et ceux qui en font partie mais pas complètement, ou qui en tout cas n'arrivent pas complètement non plus à prendre la suite ou à être une reproduction exacte de leurs parents. Et voilà.
Cet arbre-là, c'est le mien, mon vieux l'a planté un matin de mars pour célébrer, comme il se doit, mon arrivée. Il faisait froid, il y avait du vent, un timide soleil de printemps, échappée de l'hiver caressait la ferme de mon père. Cet arbre-là, c'est le mien, je l'ai salué chaque matin. Que tu faisais avant d'aller creuser la terre, faucher les blés. Il faisait froid, il y avait du vent. Qu'importe, pendant 40 ans, ce fut moi la pauvre pomme qui s'en allait nourrir les hommes. Cet arbre-là, c'est le mien, le seul, l'unique témoin de cette course en solitaire, à marche forcée pour que la terre, qu'il fasse froid, qu'il y ait du vent, crache ses poumons, verse son sang. Fallait produire jusqu'à l'envie, un peu mouton, moi j'y suis vie. Là, c'est le mien, je m'y balance ce matin, au gré du vent pour célébrer, comme il se doit, ma destinée. Qu'il fasse froid, qu'il y ait du vent, je m'en contrefiche à présent. Adieu mes champs, adieu ma terre, fin de la course en solitaire.
Oui, c'est toute la question du mimétisme, de oui, qu'est-ce qui fait qu'on reproduit ou non telle ou telle chose, et le cas de l'orphelin est intéressant. Et puis, il y a ceux aussi qui sont différents, et ça, c'est intéressant, parce que il y a un beau personnage féminin, qui est le personnage de la gamine, dans Du même bois de Marion Fayolle chez Gallimard, et d'emblée, on sent sa différence. Quand elle en parle, elle évoque les bêtes qu'il y a à l'intérieur d'elle, qu'elle essaye de représenter, d'ailleurs par le dessin, par une espèce de monstre rougeâtre sur une feuille de papier. Mais cette bête, elle est extrêmement puissante. Et on se dit que bah, peut-être elle a hérité des bêtes de sa famille, d'une certaine manière.
Oui, oui, complètement. Il y a... Le personnage de la gamine, pour moi, elle hérite des bêtes de manière, elle hérite des bêtes de la ferme, ouais. Elle hérite du côté de son père des bêtes qui seraient des bêtes symboliques. Et elle rassemble ces deux bêtes avec un courant contraire, parce que du côté des paysans, les bêtes, on en prend soin. On se dit que s'il y avait plus de bêtes dans le bâtiment, là, ça serait plus vivable. En fait, on a besoin des bêtes, on les côtoie, on vit avec. Alors que du côté du père, on sent qu'il y a un rapport à l'alcool, que la bête, en fait, c'est quelque chose qui est négatif et dont on aimerait pouvoir se défaire et qu'on aimerait dresser sans y arriver, etc. Donc, le personnage de la gamine, il est l'endroit, il est au carrefour, en fait, de cette ambivalence, parce que c'est un personnage qui entend le pépé dire que les bêtes, ce que sans bêtes, on serait malheureux, et qui, en même temps, ne sait pas comment faire avec ses bêtes intérieures pour trouver une forme de stabilité.
Alors, il y a un autre personnage qui, lui aussi, est en décalage, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment, dans cet univers, qui est un univers très clos, où il y a très très peu d'intervenants, où on sort quasiment jamais, où il y a des voisins qui peuvent venir, mais c'est quand même très très limité. Donc on vit entre soi dans cette ferme, et donc ça veut dire qu'on vit entre soi tout le temps, jusqu'au bout, quelles que soient les conditions. C'est-à-dire qu'on accompagne jusqu'à la mort le pépé qui perd la tête et qui confond un pied de table avec un arbre ou quelqu'un avec un objet. On aide à mettre les bas à Varis, et puis on s'occupe aussi du beau-frère dont on a hérité malgré l'alcool. Mais bon, avant l'alcool, de toute façon, il était, comment vous utilisez l'expression, pas fini. Et donc ce personnage est aussi un personnage intéressant, parce qu'il a lui-même un rapport aux bêtes très particulier, et un rapport aussi à son environnement très, très spéciale.
Oui, pour moi, j'avais à la fois envie de parler de cette sorte de solidarité en fait qui se perd, parce que dans la société d'aujourd'hui, bah, une personne âgée, on la met dans une maison de retraite, quelqu'un qui a un trouble, là, on pourrait sans doute dire autistique, ou en tout cas quelque chose de cet ordre, qui au quotidien mène une vie différente et qui peut être un poids pour la famille, on va avoir tendance à essayer de trouver des solutions pour que ce soit le moins pénible possible, alors que dans cet endroit-là, on vit ensemble et que ce soit des animaux qu'il va falloir tuer ou qu'il va falloir, dont on va devoir s'occuper parce qu'il y a un problème, ou que ce soit des humains qui fonctionnent pas exactement comme tout le monde, bah, d'une certaine manière, on en prend soin quand même. Et donc, pour moi, le personnage du beau-frère, donc il tombe amoureux d'une sorte de poule faisane. C'est le personnage le plus fantastique aussi dans le livre, le plus inventé aussi, même si mon grand-père vivait en effet avec son frère qui était pas fini. Mais j'ai décidé dans le livre de faire mourir le pépé et son frère en même temps, parce que pour moi, ce beau-frère, ce serait presque un double du grand-père, et il vit dans l'arrière-pièce. Donc, dans le livre, ça peut être tout à fait deux personnages différents, mais je l'ai aussi pensé un peu comme presque l'inconscient du grand-père, cet endroit où, en fait, ce serait un double qui dessine, qui a un rapport comme ça à l'image, qui est presque un double un peu surréaliste, et qui est aussi la part d'ombre, quelque chose qu'on cherche à cacher dans les coulisses et qui par moment en fait fait éruption, vit avec, surgit. Et donc voilà, c'est ce qui m'intéressait, c'était que pour moi, ce personnage-là, ça pourrait presque aussi être la bête du pépé, d'une certaine façon. Et d'ailleurs, de temps en temps, on entend souvent des bruits derrière les murs et on ne sait jamais trop si c'est lui qui tombe ou si c'est la vache. Il y a quelque chose où il fait des bruits presque de bête et on l'entend derrière les murs comme on entend les vaches, et ça m'intéressait qu'il y ait un peu cette confusion là et que ce soit à la fois un personnage marginal et un personnage aussi qui, bien qu'il soit différent, puisse avoir sa propre beauté, qu'on puisse aussi s'attacher à lui, qu'on puisse avoir de l'affection et de la tendresse pour ce personnage là mais que ça soit peut-être aussi ce double avec lequel on doit tous composer et qu'on cache en nous et avec qui par moment il faut cohabiter, et qui est aussi cette bête dont je parle.
Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage. Je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Toi qui crois que je maîtrise ma vie, je la déréalise. Et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine qui coule, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur.
Mmh.
la tendresse est mon guide, mais elle opère en terre aride. Ceux qui m'aiment ont le cœur solide et l'amour des choses candides. Si la mesure nous fatigue, à se sauver on est rapide. Nos chevaux on les débride et on s'élance dans le vide. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines,
Oui, alors c'est intéressant parce que quand on reprend l'ensemble des personnages, globalement on va dire que ce sont des taiseux essentiellement. C'est un univers où on ne parle pas de soi, où on ne parle pas de ses émotions, où on est, j'allais dire, presque uniquement dans l'utilitaire et dans la fonction. Et donner ce jeu de profondeur avec le frère, ça peut permettre de mettre en perspective et de donner accès à ce qui se passe derrière. Et j'allais dire, il y a un autre moment où ça peut transparaître aussi, même s'il est beaucoup plus infime, c'est le moment où on se retrouve tous autour de la table et où on se met à chanter. Avec cette tante qui chante un peu faux, mais on sent que la joie est là, avec la mère qui se met à être un peu impudique même. Et là, c'est peut-être le moment où l'individu fonction devient individu émotion. Et ça m'a intéressé aussi que vous évoquiez cette scène.
Oui, pour moi, le moment de la chanson, c'est aussi avoir recours aux mots des autres pour réussir à dire les mots qu'on n'arrive pas à trouver soi-même. Et pour moi, c'est aussi la fonction de l'écriture. Et c'est quelque chose aussi qui revenait déjà dans mon travail dessiné, parce que quand mes personnages se sont mis à parler, j'ai fait une bande dessinée qui a l'aspect un peu d'une comédie musicale, parce que pour moi, la chanson, c'est le moment où les personnages disent tout haut leur intérieur, et c'est le moment où les personnages, en fait, s'ouvrent et créent une sorte de brèche qui nous les laisse voir profondément. Et je trouve que dans les chants paysans, moi, j'ai vraiment ce souvenir des dimanches où en fait on chante et où la chanson c'est le moment où il y a l'émotion et c'est le moment où tout d'un coup on fait aussi quelque chose qui sert à rien, qui est pas, on est tout le temps dans nourrir, nettoyer, enfin on est dans des tâches et dans un travail, et le moment de la chanson c'est un moment en fait qui quelque part paraît gratuit et qui pourtant est essentiel. Parce que c'est le moment où il y a quand même des choses qui se disent.
Oui, oui.
Et il y a des émotions. Et puis c'est beaucoup les hommes aussi qui chantent, alors que c'est aussi beaucoup eux qui sont dans le silence, peut-être encore plus que les femmes. Et donc, en fait, c'est très beau. C'est très beau. Enfin, moi, j'ai des souvenirs de certains oncles assez âgés que j'avais presque jamais entendu parler, mais que j'ai entendu chanter. Et donc, j'ai l'impression d'avoir eu accès à quelque chose qui gardait secret et qui réussissait à s'extirper par le biais des chansons.
Dans ce roman du même bois, Marion Fayolle, donc roman paru chez Gallimard, il y a aussi, en perspective, qu'est-ce que c'est que l'amour ? Qu'est-ce que c'est que l'amour dans ces conditions, pour ces gens, et aussi pour la gamine ? Et comment ça se construit, et comment ça s'apprend, et on regarde les bêtes, et on va dans la nature, et on voit ces couples qui sont là pour une vie entière, et on se dit que bah oui, mais non, et les cheveux bouclés, et beaucoup d'éléments comme ça que vous mettez en perspective qui sont aussi intéressants.
Oui, pour moi, la question de l'amour, elle est assez centrale, même si c'est pas le cœur du livre, mais j'ai l'impression que c'est à cet endroit aussi qu'on sent que les générations ont changé, enfin, qu'il y a une mésentente, en tout cas quelque chose qui fonctionne plus de la même façon. Et Et là, typiquement, en fait, la géographie et le métier de paysan fait qu'on est tellement sédentaire que de toute façon, on n'est pas amené finalement à rencontrer de nouvelles personnes. On est dans un vase clos qui tient les gens fidèles et qui tient les gens n'ont pas de difficulté en fait à faire une vie ensemble. C'est logique et il y a même pas vraiment en fait de tentation. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas, et donc pour les enfants que nous étions, tous ces grands moments où on fêtait les noces d'or des grands-parents, des cousins, etc. C'était un moment où on se disait waouh, mais nous on va jamais être à la hauteur de ça, on va pas y arriver, comment c'est possible, et puis aussi cette impression qu'il y a on peut plus faire pareil, on n'arrive plus à se comprendre sur cette chose-là. Et ça m'intéressait dans le texte de travailler sur le mot de la langue, parce que c'est un peu la même chose avec le patois. Et donc j'aimais bien que la langue, ce soit la langue qui embrasse et aussi la langue dans le sens de ce patois qui se perd, parce qu'en fait on ne le parle que sur un périmètre très restreint. Donc petit à petit, quand on a une vie plus ouverte et moins sédentaire, on n'en a pas l'usage et donc on a notre langue qui n'est plus en capacité de le parler, comme on a notre langue qui est beaucoup plus curieuse que celle des grands-parents quand il s'agit d'aller embrasser.
Ça s'appelle Du même bois, c'est de Marion Fayolle, c'est paru aux éditions Gallimard. En tout cas, moi, je vous recommande de découvrir ce roman. Et question habituelle dans cette émission, quand on est face à quelqu'un qui vient d'écrire son premier livre, et alors, et après, vous souhaitez continuer aussi dans le domaine du roman ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare ?
J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, je pense que j'ai envie de continuer à écrire. Après, je pense que j'ai pas envie de plus dessiner. Je me dis juste que j'ai un monde à moi et que là, je lui ai trouvé d'autres territoires. Mais en fonction des histoires que j'ai envie de raconter, peut-être que ça sera par le dessin, peut-être que ce sera par une combinaison du dessin et des mots, ou peut-être parfois que par les mots aussi. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai envie de continuer évidemment.
Eh bien, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver, en tout cas pour un prochain. En attendant, ça s'appelle Du même bois, c'est de Marion Fayolle, c'est chez Gallimard et c'est vraiment à découvrir, tout un univers. Merci beaucoup Marion Fayolle.
Merci à vous.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires, à ne plus que savoir en faire, s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver?
Voilà, c'était donc Marion Fayolle qui nous parlait de son premier roman intitulé « Du même bois » qui est paru chez Gallimard. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Élodie Fiaban qui, elle, s'est attachée à nous présenter la ville sous un aspect un peu méconnu avec un roman intitulé « Dans la ville » et qui paraît aux éditions Flammarion. Toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le plaisir de rencontrer Élodie Fiaban pour un roman qui est paru chez Flammarion, que j'ai beaucoup aimé, un roman qui s'intitule « Dans la ville ». Et moi, il m'a beaucoup touchée ce livre et je suis très contente de pouvoir en parler aujourd'hui avec vous. Et je voulais savoir comment était né ce projet, parce que vous avez plusieurs médias à votre arc, et je voulais savoir pourquoi celui-ci a fait l'objet de l'écrit, pas d'un documentaire. Enfin, comment ça se passe? Comment vous choisissez? Comment est né ce livre?
Oui, c'est parce qu'en fait, je suis monteuse et cinéaste, mais là, c'est vrai que le roman s'est imposé. Parce que, en fait, il y avait plusieurs éléments que je ne pouvais faire passer que par l'écrit, que par le texte. D'une part, il y avait vraiment cette volonté de faire des portraits de gens qui sont sans abri, raconter comment la rencontre, comment dire, est parfois possible, parfois elle foire, elle a quelque chose de biaisé, parce que donc c'est une narratrice qui va à la rencontre des sans-abri, et le fait de marauder comme ça et de proposer de l'aide, ça biaise la rencontre. Donc c'était déjà une situation que je trouvais forte, et la littérature me permettait de lier cette situation de la rencontre avec toute la pensée de la narratrice, tout ce que ça générait comme pensée chez elle. Parce qu'il se trouve que cette narratrice, donc elle maraude, elle va la rencontrer sans-abri qui sont dans son quartier, et en fait ça va la questionner sur elle, son propre usage de la ville, sur ce quartier familier qu'elle connaît très bien et qu'elle va découvrir différemment la nuit comme ça. Ça va la questionner, elle, sur son propre rapport de domicilié. Parce que en rencontrant plusieurs sans-abri, parfois elle se dit que la rue les forme un peu, et que peut-être elle aussi elle est formée d'une certaine façon par le fait d'être domiciliée. En quoi ça la formate aussi. Enfin voilà, les moyens de la littérature me permettaient à la fois de raconter ces situations et l'émotion et aussi la rapidité, parce que ça c'est des rencontres qui se passent assez vite, et de lier ces situations qui me paraissaient fortes avec de la pensée sociale en fait.
Oui, tout à fait. Moi, c'est ce qui m'a intéressé dans le livre, c'est que c'est pas uniquement descriptif, mais c'est interrogatif aussi. Et j'ai bien aimé cette dimension-là, et puis j'ai bien aimé plusieurs points que vous avez un peu évoqués, c'est-à-dire la modification de la géographie et aussi le rapport temporel. On va commencer par ça d'ailleurs, parce que vous évoquez le fait que ce sont des brèves rencontres de gens qui sont sans domicile fixe.
Mais en fait, ces brèves rencontres s'inscrivent dans une routine. Et ça, c'était intéressant parce que c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte. Et ça, ça transparaît avec votre livre « Dans la ville » paru chez Flammarion et le Diffia Band, c'est que ces 100 domiciles fixes sont extrêmement fixes et que ces maraudes, dont on parlera dans un cadre associatif, en fait, répètent toutes les semaines d'aller voir les mêmes personnes et on a à la fois un temps fugace mais en même temps un temps sur la durée et c'est cette mise en perspective de ça qui m'a intéressée.
Ouais, c'est un roman qui se passe sur tout un hiver et c'est vrai que c'est une association qui va voir des sans-abri isolés dans un même quartier de Paris et en fait ces 100 domiciles fixes ont une adresse fixe, c'est-à-dire un endroit où qu'ils ont choisi pour chacun pour des raisons différentes. Il y en a un, c'est parce que ça semble protégé du vent, des regards. Une femme qui au contraire va elle essayer de se mettre dans une place très éclairée,
très visible, oui.
Ben oui, très visible, en se disant que le fait d'être visible lui permettra peut-être d'être protégé des agressions. Enfin, voilà, ils ont tous leur adresse pour des raisons qu'ils ont choisies. Et oui, il y a ce côté routinier qui est un peu cruel, hein, qui est à la fois d'aller les voir et d'avoir la sensation de faire le bien, d'essayer de leur apporter quelque chose. Et après, il y a toujours ce... Parce que le livre est très chapitré, et toujours ce « à mercredi prochain », parce qu'on passe quelques minutes avec les sans-abri, et après, avec un sans-abri, puis après, on va voir un autre. Et c'est toujours « à mercredi prochain » qu'il y a quelque chose de très cruel, quoi. Parce que à la fois, les maraudeurs essaient d'apporter de l'aide, et à la fois, ils ne vont rien changer à la situation... À la situation sociale, quoi. À la fin, les domiciliés rentrent chez eux et les sans-abri restent dans une situation situation critique.
Alors,
et donc, ouais.
Oui, c'est tout à fait ça. Et on évoquait le fait que ces maraudes avaient lieu dans un cadre associatif, et ce qui transparaît aussi dans ce livre, dans la ville d'Élodie Fiaban, paru chez Flammarion, c'est le caractère extrêmement codifié et ritualisé des interventions. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, parce que on a, au travers de cet élan de générosité, d'attention à l'autre, plein de barrières qui sont mises. Ça commence par l'uniforme, qui est très, très important. Et puis, ça va effectivement dans le fait de cette routine de maraude qu'on évoquait, le fait qu'il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux, le fait que, surtout, et tout est codifié.
Exactement, c'est codifié, c'est-à-dire donc les maraudeurs portent un uniforme, ils se déplacent dans le quartier en voiture et ils se gardent pas trop près des sans-abri pour pas voir ce qu'ils ont dans le coffre, pour pas se donner envie.
Se faire voler, oui.
Voilà. C'est assez codifié aussi. Il y a une hiérarchie dans les maraudeurs. Enfin voilà, il y a plein de codes comme ça et qui paraissent assez durs. Enfin qui comme ça, qui donnent une stature et qui donnent qui empêchent la narratrice d'une certaine façon d'agir comme elle voudrait. Mais en fait, il y a quelque chose d'ambivalent, c'est-à-dire que la narratrice a quelque chose de peut-être un peu peureux. Elle a peur d'aller seule voir les sans-abri et de leur proposer de l'aide. Elle a comme ça peut-être des clichés de sans-abri violents parce qu'alcoolisés, quelque chose comme ça. Et le fait d'être à plusieurs, d'être en uniforme, de pas être finalement elle-même, mais de représenter autre chose, ça lui donne une force. Et du coup, ça donne même de l'entrain. On sent qu'il y a de la camaraderie entre les maraudeurs. Et en fait, il y a cette ambivalence, c'est-à-dire d'un côté, le fait d'être dans cette structure, cette association, ça lui donne l'opportunité de faire ses maraudes et l'organisation. Et aussi, elle a de la nourriture, enfin, elle a des choses à apporter concrètes. qu'elle n'aurait pas forcément si elle faisait ça seule. Et en même temps, ça la formate, ça l'empêche, et il y a quelque chose comme ça de très ritualisé. Et de l'association, elle s'appelle l'institution. Et c'est pour ça que je voulais noter quelque chose comme ça. De la maraude, c'est aussi à la base, c'est les premières maraudes à Paris ont été créées après l'hiver 54 l'appel de l'abbé Pierre. Et c'était des maraudes de police. C'était un bus de ramassage qui ramassait les sans-abri pour les amener dans des centres d'hébergement. Et en fait, la maraude est entre les deux, en fait, entre cet élan un peu généreux de l'abbé Pierre et quelque chose quand même un rapport de la norme à la ville, un rapport policier. Et du coup, pratiquant la maraude dans ce cadre-là, le fait d'avoir l'uniforme et d'être plusieurs, ça donne de la force à la narratrice et ça fait qu'elle en fait beaucoup finalement des maraudes, peut-être plus que si elle avait été seule. Et en même temps, ça la formate et ça la met dans un cadre final policier qu'elle finit un peu par intégrer avec l'uniforme et voilà.
Un homme ce matin, comme hier d'ailleurs, il y avait un homme ce matin sur le cul, il y avait un homme ce matin. Ainsi qu'une femme sur le cul.
ceci que sont dix femmes.
Alors oui, mais c'est ça qui m'a beaucoup plu dans le livre, c'est justement cette ambivalence permanente. C'est une position très très ambiguë parce que l'uniforme donne une légitimité à, elle est légitime à intervenir, à interpeller un SDF, à lui proposer un café d'ailleurs même s'il n'en a pas envie, mais enfin à faire quelque chose. Et en même temps, elle est l'institution qu'elle représente, mais elle n'est plus vraiment elle. Et on va tout le temps naviguer entre ces différents mouvements. Alors dans certains passages, dans certaines interventions, elle va franchir la ligne, elle va redevenir elle-même. Il y aura des moments où on va pas dévoiler le livre, mais où elle ira, où elle sera elle en tant que personne. Elle sera plus en retrait derrière son uniforme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce jeu permanent de l'un à l'autre. Oui. Et puis il y a une autre chose aussi que vous évoquez, Élodie Fiaban, dans La Ville, paru chez Flammarion, et qu'on ne soupçonne pas, c'est l'excitation qu'on peut avoir à ces interventions. Et elle en parle très très bien. Elle a été formée pour les gestes d'urgence, le massage cardiaque, la PLS, enfin des tas de choses. Et il y a une espèce d'excitation à intervenir.
Ouais, il y a une excitation de l'urgence vitale, en fait, qui est quelque chose qu'elle a appris dans les premiers secours, en fait, où elle s'est rendue compte que savoir faire quelque chose de ses mains, parce que comment dire, il faut imaginer aussi que donc là c'est une association avec que des bénévoles qui ont des vrais métiers à côté, et les vrais métiers à côté c'est des métiers de citadins. Et du coup, ça va être beaucoup des métiers de bureau où concrètement, on n'a pas d'action sur les choses, quoi. On produit rien, ou ce qu'on produit, on ne le voit pas. C'est des métiers un peu de bureau. Et là, dans les premiers secours, il y a quand même apprendre à faire un geste, avoir le plaisir de bien le faire, et il y a cette idée de sauver la vie de quelqu'un. Enfin, c'est vraiment, c'est voilà. Et du coup, oui, elle se rend compte que il y a une excitation à ça, un plaisir à ça, et qu'elle le partage avec les autres. Et parfois, donc dans ces maraudes, il y a aussi du matériel pour si jamais il y a une urgence vitale. Parfois, faut les ramener aux urgences à l'hôpital. Enfin, ça donne de l'intensité. C'est-à-dire que oui, ce qu'elle va chercher en faisant des maraudes, c'est probablement essayer de faire quelque chose de bien, même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, essayer quand même de faire quelque chose de bien. Et puis elle voit aussi tout ce que ça lui apporte d'intensité, des amis avec les maraudeurs, quelque chose qui se passe. Enfin, finalement, ça lui apporte aussi des choses, quoi.
Oui, alors. Effectivement, il y a une convivialité au sein de cette institution qui est très importante, avec une population qui est plutôt jeune dans ceux qui interviennent, comme vous l'évoquiez, d'un certain milieu social, d'une certaine géographie aussi parisienne. Et ça aussi, c'est intéressant, cette description un peu sociologique des gens qui participent aux maraudes.
Oui, en fait, je faisais une description sociologique des sans-abri qu'on rencontre, et ça paraissait normal de faire cette description aussi pour les maraudeurs. Et puis parce que donc oui, c'est des populations assez jeunes, parce que étudiants, parce qu'il faut du temps libre, oui. Et parce qu'il faut de l'énergie à donner. Parfois population donc vingtenaire, et aussi après pas mal quinquagénaire, enfin quand les enfants sont plus grands, ouais. Éventuellement, voilà. Et du coup beaucoup de maraudeurs comme ça finalement qui ont du temps libre pour en dehors des heures de travail pour faire ça. Au début, la narratrice, quand elle arrive, elle ose pas dire à ses copains maraudeurs qu'elle est au chômage, mais elle va se rendre compte que finalement des chômeurs, il y en a beaucoup, parce que toujours cette histoire de temps libre. Il faut avoir envie d'aider, mais il faut avoir la possibilité de le faire, en fait, aussi. Donc oui, ça me paraissait normal dans le roman de penser sociologiquement la place des sans-abri et voilà ce qui les amène ici et en même temps les maraudeurs aussi pour aussi comprendre ce qui se passe dans la rencontre quoi.
Alors avant de parler de cette population de sans-abri, on va évoquer le fait aussi, Élodie Fiaban, que dans la ville justement la narratrice va intervenir dans son propre quartier. Et ça m'a intéressée aussi. Donc, c'est dans le 13e. Et on a à la fois la vision de ce 13e avec Italie 2, avec les magasins, avec tout ce qu'il peut y avoir qu'on connaît bien, et l'envers du décor. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on éteint, quand les magasins ferment, quand on éteint les lumières, quand la nuit arrive, parce que c'est quand même une histoire aussi d'obscurité, quand les températures chutent ou qu'il se met à pleuvoir, et que ne reste plus dans les rues, en fait, que la population de sans-abri, tous les autres étant au chaud dans leur foyer.
Ouais, c'est ce qui m'intéressait, en fait, c'est que c'est un quartier très familier pour la narratrice. Et qu'elle prend les mêmes rues que celles qu'elle prend tous les jours, la rue de la bibliothèque, la rue pour aller au boulot, la rue pour l'école, la rue, voilà. Et en fait, ces rues très familières prennent un caractère un peu étrange, tout en restant familières, mais elles ont, c'est la même ville et c'est pas la même. Et ça m'intéressait. C'est pour ça aussi que j'ai choisi une narratrice femme. C'est parce que être une femme la nuit dans la ville, c'est pas rien,
non.
Et du coup, elle, dans sa vie normale, quand elle marche la nuit dans la ville à une certaine heure, elle fait vraiment plus attention. Enfin voilà quoi, c'est pour au cas où. Ou les agressions, enfin, c'est être une femme dans une ville, c'est une certaine, voilà, c'est, on peut avoir été grandi comme ça avec cette idée qu'il y avait des précautions à prendre. Et là, dans les maraudes, elle va passer, va rester la nuit dehors jusqu'à 2-3 heures. Et c'est vrai qu'elle se rend compte que finalement, l'espace public, eh ben elle en a pas un usage, enfin elle en a pas tant un usage que ça quoi. Elle, c'est quelque chose que comment dire, c'est comme un passage.
Ouais, c'est ça, elle le traverse.
Vraiment, c'est tout. Ouais, c'est vraiment l'important. Enfin, elle se rend compte à quel point elle est attachée aux différents espaces privés où elle va chez elle, dans un bar, à la banque, enfin au magasin, enfin et à quel point l'espace public ne lui appartient pas et à quel point finalement c'est juste un passage. Mais en temps de maraude, finalement l'espace public, elle va y passer. Sa soirée jusqu'à tard. Et du coup, c'était intéressant pour elle de ressentir la ville différemment et du coup d'analyser ça, cette familiarité qu'elle a avec la rue et l'étrangeté qu'il y a à découvrir la ville de nuit pendant aussi longtemps. Voilà, j'ai pas mal joué avec ça.
Oui, avec le fait que à chaque fois, à la fin de la maraude, elle rentre chez elle et elle prend conscience de ce que ça veut dire rentrer chez soi à ce moment-là.
On est beaucoup dans la maraude. Donc, la narratrice rentre qu'une fois chez elle parce que je voulais vraiment penser, le temps de la maraude avec les sans-abri comme le centre du roman. Et ce qui fait qu'en fait, chez elle, son mari, son fils, qui serait, qui pourrait être dans plein de romans le centre de la vie de cette personne, et ben là c'est vraiment une sorte de hors-champ, c'est là mais c'est autre chose. Et donc oui, il y a un moment où elle rentre chez elle après sa première maraude, et oui, elle prend conscience de enlever l'uniforme, enlever les rangers qui serraient les pieds, et puis oui, elle repense à tout ce qu'elle a, toute la ville qu'elle a traversée et le plaisir qu'il y a à être chez soi et à s'y réfugier et à se protéger de l'espace public, c'est une sensation qu'elle découvre. Ouais, protéger de l'espace public dans son espace privé.
Oui, tout à fait, ouais, avec tout ce qu'il y a de menaces potentielles. Alors, on va parler, Élodie Fiaban aussi, de ces rencontres qu'elle va faire. On évoquait tout à l'heure cette femme qui se met en plein sur la place d'Italie pour être visible. Parce qu'il y a des femmes qui sont présentes à la rue de plus en plus, il y a des enfants aussi. On en rencontre quelques-unes de femmes dans votre roman, mais ces femmes ont une position encore différente par rapport aux hommes.
Oui, en fait, elles sont doublement dominées, quoi. D'une part, elles ont cette situation sans abri, donc vraiment prolétaire au carré, quoi. Et en même temps, elles sont dominées comme femmes. Ce qu'on découvre, c'est qu'il y a finalement énormément de femmes à la rue. C'est 40% de femmes, 60% d'hommes. Sauf que les femmes, on les voit très peu parce que elles s'invisibilisent, elles se cachent beaucoup plus. Se cacher, ça veut dire se cacher physiquement dans des recoins, mais ça veut dire aussi aller au bain-douche, se maquiller, enfin faire bonne figure. Ouais. Faire bonne figure, et c'est une façon de protéger son corps également.
Mmh. Bah, ouais. C'est vrai qu'on découvre en vous lisant que ce rapport particulier au corps qui va être très très important. Alors on évoquait les situations d'urgence, il peut y en avoir, mais globalement la souffrance faite à l'individu se traduit en premier lieu par une souffrance faite au corps, par le fait que le corps est totalement négligé, qu'on se laisse envahir par différents maux, par le froid, par la nuit, par l'humidité, par la faim, par beaucoup de choses. Alors il y a plein d'éléments et plein de différents degrés de gravité, mais quelle que soit l'ancienneté de la personne dans la rue, le corps est en souffrance dès le premier jour.
Ouais. Oui, ce qui étonne la narratrice aussi, c'est à quel point ceux qu'elle finit par repérer comme des habitués sont les plus, ont un corps qui s'est habitué et sont ceux qui demandent le moins. Et il y a quelque chose comme ça où elle découvre, que finalement, elle s'attendait à des manifestations très fortes du corps, comme une révolte des gens tout le temps ivres, des sans-abri ivres, qui violents, enfin quelque chose, une imagerie comme ça. Elle attendait la crise presque, parce que c'est une imagerie comme ça du sans-abri. Et en fait, elle se rend compte que la plupart sont très ce qu'elle appelle le flegme de la rue, c'est-à-dire une façon de devoir accueillir énormément de violence, de froid, et de les accueillir très calmement. Et elle découvre une sorte de corps de la rue pour les habituer, et elle trouve ça extrêmement violent, la torpeur dans laquelle ils sont, en fait.
C'est tout à fait ça. Elles aimeraient bien qu'ils puissent se révolter et justement piquer dans le camion, quoi. Mais l'idée, ouais. L'idée ne leur vient
pas. Oui, elle a ça. elle aimerait exactement ça, en fait.
Oui, mais c'est intéressant parce que ça pose la question justement de la justification des maraudes aussi sur un plan fondamental, parce que on s'aperçoit qu'en fait. Ils n'ont même plus de demandes, ils n'ont même plus de besoins, en tout cas ils n'expriment que très très peu leurs besoins, et en échange, ce que l'institution ou d'autres, parce qu'il y a énormément d'associations qui interviennent auprès des SDF, n'ont déjà pas grand chose à leur offrir et offrent toujours les mêmes choses, et c'est pas toujours totalement adapté. Donc là, il y a pas de demande et il y a une offre qui est ce qu'elle est. Donc quelque part, la rencontre ne se fait pas.
Il y a pas de demande. Il y a quand même une
Ouais, une vie sociale qui les a mis là. Alors, pour ceux qui racontent, c'est toujours des histoires très dures, parfois de la prison, parfois le chômage, puis une rupture, puis, enfin voilà, des histoires extrêmement difficiles qui les a mis à la rue et qui les a laissés à la rue. Et une fois qu'ils y sont, c'est vrai que certains n'ont plus vraiment de demande. Mais après, faut imaginer ce qui les a amenés là et ce qui fait qu'ils n'ont plus de demande. Enfin. Et c'est vrai que tous les soirs, il y a des maraudes, différentes associations qui se relaient. Et à un moment dans le livre, une dame dit aux maraudeurs, si tout le monde était comme vous, c'est vraiment bien ce que vous faites, si tout le monde était comme vous, ah là là, c'est vraiment super. Et si tout le monde était comme vous, ça fait tiquer la narratrice. Parce que si tout le monde était comme vous, eh bien, il y aurait tout le monde qui maraudrait. Ouais. Et puis, une fois la maraude finie, les soupes distribuées, les pulls, les sacs de couchage, les domiciliés rentreraient chez eux et ça changerait rien. Et ils maintiendraient les gens en vie, ce qui est déjà bien, parce qu'il y a quand même des gens qui meurent à la rue, mais ils maintiendraient la situation sociale telle qu'elle est. Donc, il y a cette ambivalence de la maraude, c'est sûr, qui maintient une situation qui est intenable.
Comme beaucoup d'associations qui sont effectivement dans le fait de conforter un système qui lui-même est un système qui écrase les gens. Donc, c'est...
Ouais. Après, je ne sais pas s'il conforte le système. Il vient colmater,
effectivement.
Mais F, 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 S, D, F. J'ai rien en caisse, S, S, rien à fonder, D, D. J'ai pas le téléphone, F, F, S, D, F. J'ai pas d'adresse, S, S, rien à garder, D, D. J'ai pas de sous-chef, F. Joseph F F S D
F, pour qu'on se redresse. S, S, c'est le verbe aider, D, qu'il faut qu'on se greffe. F, F, S, B, F, et je vous laisse. S, S, et je vais jouer au D, chez le père Youssef. F, F, S, B, F, allez, je vous laisse. S, S, et je vais jouer au D, chez le père Youssef. F,
Ce qui ressort également des quelques personnes qui peuvent avoir des demandes, c'est aussi la réaction de certains membres de l'institution qui sont « oui, mais alors lui, c'est du clientélisme, oui, mais ça… » et ça, c'est intéressant aussi de voir comment on peut… ne pas voir certains sans-abri, ne pas s'arrêter et aller en sélectionner d'autres.
Oui, c'est comment dire, il y a énormément d'arbitraire. C'est par exemple, il y a toujours cette idée du lien social dans la maraude. Si on fait la maraude, c'est pour maintenir le lien social. Mmh. Et le lien social, c'est bon. Alors, on discute, on peut donner une soupe, on donne à manger, un sandwich. Bon, on va peut-être pas leur donner de clope par contre, parce que il faut pas créer de dépendance. Ouais. Et du coup, il y a cet arbitraire comme ça du lien social où c'est une soupe, mais c'est pas des clopes. Enfin, voilà. Après, c'est l'institution, l'association qui est comme ça. Et parfois, les maraudeurs donnent des clopes, mais il y a quand même ces choses comme ça, qui sont très arbitraires, quoi. Mmh. Et en même temps, c'est aussi des rencontres entre des gens. Donc, faut bien imaginer. Ouais, du coup, les maraudeurs, il y a des fois une injustice terrible. Lui, on l'aime bien. Lui, on s'en méfie. Et oui. Et là, la narratrice, elle a un chouchou qui est, un sans-abri qui est son chouchou, et parce qu'il est très arrogant et qu'il demande
beaucoup.
Enfin, il demande tout. Il est dans une situation de dénuement total, on lui a volé son thermos, enfin vraiment, mais tout ce qu'il peut avoir chaque soir de maraude, il le prend. Et il ne sera scobique. Et certains maraudeurs, ça les énerve parce que c'est une marque, ça va, quoi. Et voilà, il y a de l'arbitraire comme ça, dans les rencontres entre les maraudeurs et les sans-abri. Mais après, c'est, comment dire...
C'est humain.
Ouais.
C'est humain.
Ouais. En fait, je sais pas, c'est une forme de tristesse, parce qu'il faudrait presque avoir cette logique de soignant. Cette froideur de soignant, on va voir chaque sans-abri et on lui apporte du soin. Et en même temps, qu'il y ait des chouchous selon les uns les autres, je trouve ça plutôt un peu joyeux, quoi. Et ça veut dire qu'il y a quand même des relations qui passent, quoi.
Oui, enfin, ça se passe aussi avec les soignants. Il y a aussi...
Oui, non, mais vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de très...
Très,
oui,
froid, complètement. Très protocolé.
Ouais.
On va laisser nos auditeurs découvrir ce roman, Élodie Fiaban. Ça s'appelle Dans la ville, c'est paru aux éditions Flammarion. C'est absolument passionnant. Et puis vous verrez tous les dessous de cette vie et de cette ville et de ces personnages. Mais alors, question assez habituelle dans cette émission, maintenant que celui-là est sorti, vous avez d'autres projets ? Vous allez continuer dans le domaine de l'écriture ? Qu'est-ce que vous avez. En progression.
Ah oui, mais je veux pas en parler.
Ah,
oui, du coup j'ai un deuxième roman, mais
c'est chouette.
Là, je suis tellement en train de, j'en suis tellement au début que c'est difficile de vous en parler.
D'accord, mais en tout cas, vous continuez dans la voie de l'écriture.
Ah oui, oui, parce que ça veut pas dire que j'arrête le cinéma qui m'intéresse énormément. Mais disons que dans l'écriture, j'ai quand même trouvé une liberté que j'avais jamais eue. C'est-à-dire que le cinéma, le langage des images, c'est quelque chose qui m'émeut particulièrement, de voir un plan, de voir une scène, de voir des films, c'est vraiment quelque chose que je trouve... j'ai un rapport fort au cinéma. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Mais l'économie du cinéma, c'est quelque chose de très long. Demander des subventions, le CNC, et de très lourd. Et là, l'écriture, il y a il y a quelque chose de, il y a une sorte de plaisir immédiat quand même à écrire des pages et à voir tout de suite si la phrase fonctionne ou pas, si on a touché juste. Et oui, du coup là je crois que je m'en passerai plus. Hein.
Oui oui. Et ce que je peux dire moi en tant que lectrice, c'est que on retrouve cette dimension visuelle dans votre écriture. Et ça c'est important aussi parce que les scènes, on les visualise complètement. Et ça, c'est très, très agréable aussi. On est avec la narratrice, on est dans sa maraude, on voit les cuisses de poulet qui sont en train de cuire. Enfin, je donne cet exemple-là. Mais oui, c'est très, très tangible. Ça, vous donnez à voir ces personnages et ces décors.
Oui, c'est vrai qu'il y a des scènes, quoi. Qui sont assez, dans ce roman-là, qui sont assez, comment dire, rapides. Il y a quelque chose d'assez vif aussi.
Oui, oui.
Ouais.
En tout cas, merci beaucoup. Ça s'appelle Dans la ville, c'est d'Élodie Fiaban et c'est paru chez Flammarion. Je vous le conseille vraiment. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je l'ai rencontré au palace.
Je l'ai rencontré au palace.
À la fin de cette émission Idéaux et débats où on a parlé donc du roman intitulé Du même bois de Marion Fayolle paru chez Gallimard et de Dans la ville d'Élodie Fiaban paru chez Flammarion. Des bonnes lectures en perspective. Nous, on va s'en aller, on va vous laisser rester à l'écoute de Radio Libertaire 89,4 MHz et on se retrouve dans 2 semaines. Portez-vous bien.
Radio Libertaire.
Un cri qui n'a pas la rosette,
cette parole de prophète. Je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître. Pas vrai, maître?
Alors, alors, je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée, à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible, à tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
Tête de veau, c'est pas de peau. La pastille, avalon, Vichir prend du galon. C'est papon. La justice mesquine sauve la peau des skins. C'est pas clean. L'eau de Seine efface les additions salaces. C'est passe-passe. Capital qui peine, bombé d'un F, d'un N, pas gégène. Le bruit, l'odeur, pas beau, va voir ailleurs. Ciao, parano.
Belles villes vibrent de leur métisse fibre. Apatride, une cité de zombies se réveille et revit.
C'est le Paris.
Et même quand il y a de la pluie, on dit oh ça c'est bon pour le navet noir. J'ai des arbres, par milliers des fleurs et la mer n'est jamais loin. J'y amène nos cousines et sœurs, l'océan et notre jardin.
Mon quartier c'est mieux qu'un pays, c'est un monde à lui tout seul. À 100 mètres j'ai l'Algérie, des nomades, tziganes ou peuls. Pas de tradition millénaire, encrassée, rigide et frileuse. La culture révolutionnaire du métissage en musique heureuse. Je te chambre pour la danse,
je te chambre pour le geste.
Je te chambre pour que ça balance,
je te chambre pour le reste.
On chante pour la danse. danse. On chante pour le geste, on chante pour que ça balance. Dans mon pays, on est modeste.
Et mon voisin roule ses R et tu trouves ça très rigolo. Mais le tien sonne la misère qui déroule dans le métro. On dit où abandonner si Paris était capitale. Elle serait seule des paumés, des crèves, la faim qui ont que dalle.
Vas-y, va, on va entraver, je vais t'apprendre notre patois. C'est la langue de la cité, c'est la chambre des gens d'en bas. Prends ta gova et fais-toi saisir, je te loge pour pas enlever. Tu voulais visiter Agadir, c'est ton spa welcome au quartier. Je te chambre pour la danse,
je te chambre pour le geste,
je te chambre pour que ça balance,
et je te chambre pour le reste.
On chante pour la danse, on chante pour le geste, on chante pour que ça balance. Dans mon pays, on est modeste.
La pulido vido y a lo soleil, lo feche grâce, et qu'applausus tu ma pulido me fa venir tout coquinas.
Nos quartiers, c'est tous les pays, nos pays, c'est le monde entier. On partage la belle vie, pour les frontières, pas le quartier.
Mon país, la pulido vido y a lo soleil, lo feche grâce.
On partage la belle vie, pour les frontières, pas le quartier.
On chante pour la danse, on chante pour le geste, on chante pour que ça balance, on chante.